Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Politiquement Votre et une émission spéciale aujourd'hui que nous vous proposons avec un débat consacré aux élections municipales à Moissac en direct à la radio, sur YouTube et sur le Facebook Live de CFM Radio. À quelques jours du scrutin, quatre listes présentent leurs projets pour les six prochaines années dans un contexte marqué par des préoccupations très concrètes, le social et les services publics, la santé et l'accès aux soins, les finances et la fiscalité, le logement et enfin la tranquillité public et la sécurité. Quatre têtes de liste dans notre studio aujourd'hui qui ont accepté spontanément de participer à cet exercice. Jules Dufaux pour Un autre avenir, Estelle et Mamie pour Fier, Fier et Solidaire, Séverine Laurent pour Union citoyenne moissagaise et enfin Romain Lopez pour Moissac, gardons le cap. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous sur CFM Radio.
Bonjour Kader.
Bonjour Kader.
Bonjour, et nous aborderons cinq grands thèmes donc, que je viens d'évoquer dans ce débat que nous espérons respectueux et clair. L'objectif, c'est d'éclairer les habitants de Moissac sur vos priorités et aussi, certainement, les différences sur vos projets. Sur le terrain, première thématique du débat, sur le terrain, une préoccupation domine parmi tant d'autres, le coût de la vie dans un contexte marqué par le pouvoir d'achat. La question du rôle social de la commune se pose avec force. Doit-elle agir en proximité ou se concentrer sur ses postes, sur ses compétences et sur ses missions de base? Le tirage au sort a fait que c'est vous, Estelle Mamie, à qui je pose la première question. Vous faites de la protection du pouvoir d'achat votre priorité avec ce que vous nommez un bouclier municipal. Vous allez nous expliquer ce que c'est que ce bouclier, notamment la cantine à 1 euro, si j'ai bien compris concrètement. Quels services municipaux verront leur tarification évoluer dès le début du mandat si vous accédez aux responsabilités?
Oui, merci Kader. En fait, tout simplement, en 6 ans, le constat est clair sur Moissac. En fait, notre commune s'est affaiblie. Il y a trop de services publics qui ont été fragilisés, à commencer par le CCAS, bien sûr, laissant les plus vulnérables en difficulté. Alors, avec la liste Moissac, Fier et Solidaire, nous souhaitons effectivement mettre en place un bouclier municipal, tout simplement pour renforcer le pouvoir d'achat et alléger les dépenses quotidiennes des familles. Donc oui, vous avez donné plusieurs exemples, je les confirme, la cantine à 1 euro, la création de coopératives d'achat, la baisse des tarifs de services municipaux. Voilà les grandes lignes de notre programme sur le bouclier, effectivement.
Ce bouclier, il va s'adresser à tous les habitants ou il y aura des ressources?
Évidemment, nous nous adressons à toutes les Moissagaises et tous les Moissagais, bien évidemment.
Romain Lopez, vous souhaitez poursuivre la politique sociale actuelle, celle que vous avez mise en œuvre depuis 2020, dans ce contexte, est-ce que la priorité est d'aller à la protection du pouvoir d'achat ou, par exemple, via des aides ciblées?
Il ne faut pas se le cacher, les mairies ont une action symbolique sur le pouvoir d'achat de nos administrés. Elles ont à travers, bien sûr, les tarifs municipaux. Et nous n'avons que guère augmenté ces tarifs municipaux. Nous ne sommes même pas alignés sur l'inflation durant plusieurs années. Il faut le noter. Également, il faut aussi également noter que nous avons mis en place des dispositifs comme la mutuelle communale pour essayer de faire baisser les coûts d'accès à la santé pour nos administrés et que nous comptons mettre en place des achats groupés sur le gaz, l'électricité ou autre, avec le CCAS sur le prochain mandat si nous sommes réélus. En tous les cas, il faut faire attention aux belles promesses concernant le pouvoir d'achat. Pourquoi ? Parce que c'est un coût sur les services municipaux et un maire doit être garant de l'équilibre des finances.
– On va en parler des finances.
– Tout à fait. Et en l'occurrence, la ville de Moissac a des tarifs municipaux très attractifs, bien en deçà de communes voisines. Quand bien même, la pauvreté existe à Moissac, oui, mais elle existe aussi dans d'autres communes alentour et dans l'ensemble du Tarn-et-Garonne. Mais nous avons souhaité maintenir des tarifs municipaux très accessibles. Certains sont d'ailleurs passés sur quotients familiaux, par exemple le centre de loisirs ou le tarif du périscolaire, l'animation en temps périscolaire, en faisant en sorte aussi à ce que les classes moyennes ne soient pas celles qui seront pressurées parce qu'elles paient déjà assez d'impôts. Et nous avons aussi fait attention à diminuer le taux municipal de la taxe foncière pour aussi rendre du pouvoir d'achat à nos administrés. Parce qu'une mesure symbolique comme la cantine à 1 euro, c'est à peu près 300 000 euros de déficit supplémentaire. Qui va le financer et comment ?
Pourrais répondre quand même. Je pense que quand même ça s'adresse à moi. Effectivement, Monsieur Lopez, quand vous faites votre politique, vous faites des choix. Moi, j'ai budgétisé à peu près la cantine à 1 euro. Ça fait à peu près 150 000 euros de frais supplémentaires apportés pour la commune aussi. Et par contre, vous n'hésitez pas à mettre 900 000 euros pour la rénovation d'églises. Donc, vous faites des choix, concrètement, mais le pouvoir d'achat pour les mois saguets, c'est non.
On ne peut pas confondre investissement et fonctionnement. Madame et Mamie confond investissement et fonctionnement, ce qui n'est radicalement différent.
J'espère que vous n'allez pas nous rejouer les conseils municipaux.
Ce n'est pas un débat, Romain Lopez, Estelle et Mamie.
Vous devez.
Séverine Laurent, c'est à vous que je pose la question là, sur le social, sur les services publics. Votre projet, vous, il repose sur l'idée d'une ville qui protège et qui associe les habitants. Quelles mesures concrètes, vous, en matière de services publics municipaux et notamment sur le social ?
Alors, nous, on partage le constat de Madame et Mamie concernant la casse des services publics, et particulièrement dans un contexte
la casse des services publics.
Particulièrement dans un contexte où l'État se désengage de plus en plus des services publics. Merci, Rémi, pour la remise en état du micro. Ce qu'il est important, en fait, de savoir déjà, c'est que nous sommes dans une ville sinistrée, avec un taux de chômage qui est énorme. On peut s'étonner du fait qu'il n'y ait pas un guichet d'accès à l'emploi, qu'il n'y ait pas un service aujourd'hui qui puisse accompagner les Moissaguets pour refaire leur CV, pour les aider à trouver un emploi. Et ça, c'est une des premières mesures que nous mettrons en place. Notre vision de la politique de solidarité locale, nous, c'est pas tiens, je te donne et tu me dois, c'est viens, on va faire ensemble. Et c'est comme ça que nous travaillerons avec les Moissaguets. Sur la question de l'accès à la cantine hein, ou de l'accès au sport, de l'accès à la culture pour tous les enfants, nous avons une vision qui est l'égalité républicaine. C'est-à-dire que chacun doit contribuer à la mesure de ses moyens. Nous avons également des politiques fortes en matière de prévention des Moissaguets, donc beaucoup d'actions de prévention sur les addictions, sur les écrans. Et puis, encore une fois, par-dessus tout, l'accès à l'autonomie, l'accès à l'emploi, ça doit faire vraiment partie des priorités de la ville de Moissac pour pouvoir relever cette ville.
Jules Dufaux, vous insistez sur l'emploi, la réindustrialisation comme levier contre les fragilités sociales. Est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça suffira, d'ailleurs, pour vous ?
C'est un projet, l'emploi, à mon sens et au sens de la liste que je porte, c'est le moyen qui va nous permettre, à nous, à Moissac, de sortir de la situation dans laquelle nous sommes englués depuis certaines années. Nous affichons un taux de chômage à 19%, quand la moyenne tarnégaronnaise est à 11%. Oui, madame et mamie, on ne calcule pas le chômage de la même manière, puisque moi, je le calcule au sens du BIT. Donc oui, le chômage
est au chiffre.
Moi, je vous parle du chômage au sens du BIT, qui est d'ailleurs un taux de chômage qui est calculé comme ça par l'INSEE et par de nombreuses collectivités. Donc il est à 19%. La moyenne tarnégaronnaise est à 11%. Donc il y a vraiment une réalité autour de l'emploi. Quand j'entends que notamment M. Lopez, dire que finalement la mairie a peu de marge de manœuvre pour redonner du pouvoir d'achat aux Moissaguets, alors qu'on entend depuis 6 ans qu'on se vante de redonner du pouvoir d'achat aux Moissaguets, notamment par la baisse de la taxe foncière, pour moi c'est une plaisanterie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que nous sommes tous conscients, et les Moissaguets les premiers, qu'aujourd'hui, le seul moyen de pouvoir redonner du pouvoir d'achat dans les foyers, dans les familles, surtout pour nos actifs, puisqu'on sait que le travail paye peu et pas assez, c'est l'emploi, c'est les entreprises et c'est l'activité. C'est l'activité. Et aujourd'hui, nous avons une compétition féroce qui se joue entre les différentes communes du Tarn-et-Garonne pour attirer des entreprises, pour donner de l'activité. Pour vous dire tellement qu'on est peu intéressé à l'emploi et l'activité, sur le site de la mairie, vous avez encore le mail de l'ancien adjoint à l'activité et aux entreprises pour contacter pour toute entreprise qui voudrait s'installer à Moissac. Donc, l'emploi, c'est la priorité. C'est évidemment des questions sociales, mais c'est la priorité pour redonner du pouvoir d'achat aux Moissaguets, non pas dans les zones, non pas dans 2 ans. Mais sur un horizon de 10 ans.
Comment est-ce que vous allez faire, Monsieur Dufaux, concrètement, pour attirer des entreprises ? Autour de quels projets structurants ?
Alors, nous avons plusieurs pistes élaborées qui sont très claires. La première, c'est d'abord d'intégrer Moissac dans les réseaux industriels, des parcs industriels, notamment toulousains. Il y a quand même une chance qu'il va falloir qu'on saisisse. Je parle à tous, je parle notamment à M. Lopez, qui est actuellement en manette jusqu'au 22 mars. C'est que nous allons avoir un subventionnement de l'État très important dans la défense. Nous avons la chance d'avoir Thales et Airbus à moins de 65 km de Moissac. Ces entreprises-là ont des orbites, ont des milliers d'orbites hein, qu'on appelle sous-traitants et qui cherchent à s'installer dans les villes rurales comme Moissac.
Voilà. Donc, il faudra en sorte et qu'elles viennent
complètement. Et aujourd'hui, on est complètement désolidarisé de ça. Et je rajouterai une deuxième chose. On peut parler d'emploi, mais il nous faut des terrains. Nous n'avons qu'un terrain constructible à Moissac aujourd'hui, à cause effectivement d'un PPRI qui a été imposé par la loi Barnier.
PPRI, on précise pour nos auditeurs, un plan de sauvegarde et de lutte contre les inondations.
Et j'ai été le premier à en parler. C'est-à-dire que j'entends tout le monde à Moissac parler de pouvoir d'achat, d'emploi, d'entreprise, d'activité, mais personne n'a su évoquer que le premier problème, c'était le PPRI.
Vous voulez répondre à
ça? Je veux juste répondre rapidement.
Répondez, Romain Le Reste, oui.
Les propos que j'entends sont effectivement tous intéressant, sauf qu'aujourd'hui, on est bloqué et vous pourrez faire ce que vous voudrez. On ne pourra pas accueillir d'entreprise pour une seule et bonne raison. La zone du Luc, depuis 2021, le permis d'aménager est caduque. Donc je vous en informe tous, je vous apporte les informations. Donc, dans 2 ou 3 ans, vous pourrez le faire. Donc, si on veut déjà attirer de l'emploi, il faut libérer les contraintes liées à la zone du Luc par deux interventions. La lutte contre les inondations et la protection du Bartac et du Combe-Clairon. Tant que ces deux interventions ne seront pas effectuées, coûte 1 200 000 euros, on ne pourra pas retrouver le foncier du Luc. Et surtout, les entreprises existantes risquent de partir. Concernant le PPRI, je ne vais pas m'étendre sur vos propos. J'en ai pas parlé. Pourquoi ? Parce que c'est vicié. Est-ce que vous proposer, c'est totalement impossible. Il y a une révision actuelle du PPRI entre 2025 et 2027. Nous avons rencontré au niveau de la communauté de communes les services de l'État, et les services de l'État, au contraire, restreignent d'autant plus le droit de construction. J'ai demandé à ouvrir des terrains sur la zone de Saint-Benoît, par exemple. On m'a dit, monsieur le maire, c'est impossible.
Mais évidemment,
est illusoire.
Ce qu'il faut faire,
il faut sauver la zone du Luc par cette intervention.
Il est totalement évident que nous ne pourrons pas libérer des terrains industriels à bâtir si nous n'investissons pas dans des nouveaux ouvrages de protection. Donc, monsieur Lopez, vous ne pouvez pas venir dire que l'État... Évidemment que l'État vous le refusez si derrière vous, il n'y a aucun investissement dans des ouvrages
mais
de protection.
Ça s'appelle le Luc, avec le Combe-Clairon et le Bartac.
On parle des ruisseaux, on parle donc de la GEMAPI de l'intercommunalité qui va financer donc les réaménagements nécessaires
pour lever les restrictions du rail. Aujourd'hui,
les inondations sur la zone du Luc sont aussi, PRI, causées par les inondations du Tarn.
Plus, monsieur. Nous avons des zones humides qui, elles, sont complètement viciées et intouchables.
Donc, personne ne propose d'investissement dans les ouvrages de protection.
1 500 000 euros que je porterai à la communauté de communes, ça a été acté par les actuels présidents.
C'est l'intercommunalité qui va financer l'aménagement des ruisseaux.
Évidemment, c'est son rôle.
C'est vous qui allez vous exprimer dans la thématique suivante, puisque on va parler santé, le rôle protecteur de la commune, il ne s'arrête pas au service du quotidien. Vous le savez, il s'exprime aussi dans un domaine qui suscite beaucoup, beaucoup d'inquiétudes à Moissac, comme d'ailleurs dans de nombreuses villes de France, de l'accès aux soins, à la santé, qui était une vraie problématique. Entre désertification médicale et responsabilité locale, vous évoquez, vous, Julie Faux, un retard de 7 ans, vous fustigez un retard de 7 ans sur la maison de santé.
De 8 ans. Je dirais même plus. Parce que ce projet remonte à Madame Beaulieu en 2018.
Bon, quelle responsabilité vous attribuez, vous, à la collectivité sortante
Mon rôle n'est pas d'attribuer des responsabilités, mon rôle est de dire qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce que l'on doit faire immédiatement.
Oui, alors.
La première chose, c'est que Moissac n'échappe pas, comme toutes les villes rurales de France, à la désertification médicale, c'est un fait. Maintenant, en 2018, nous avons lancé à Moissac, Monsieur Lopez parlait de énoncer Madame Beaulieu. C'est Madame Beaulieu qui a contribué à la création d'une maison de santé administrative.
Qui fait partie de votre liste.
Qui est quatrième sur ma liste. Sauf que depuis 8 ans, nous tergiversons à Moissac pour connaître l'emplacement de cette maison de santé. Sauf qu'on ne se rend pas compte d'une chose. On se rend compte qu'en 2028, il ne restera plus que 3 médecins libéraux à Moissac. Moi, je pense à tous ces aînés, puisque nous sommes une ville d'aînés, 4 000 aînés à Moissac. qui n'ont pas de médecin traitant, qui refusent de se soigner parce qu'ils n'ont plus accès aux soins. Donc il faut penser à eux, et gouverner, c'est prévoir, et on doit, dans l'immédiat, dégager des investissements et un emplacement définitif pour Merci. Cette maison de santé.
Merci. Séverine Laurent, votre stratégie repose sur des médecins salariés que la commune, collectivité salariée, et un partenariat régional. Comment il s'articule ce dispositif ?
Alors, médecins salariés, oui, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne souhaitons pas opposer les systèmes libéraux et salariés. Il y a des médecins libéraux qui, en effet, sont organisés depuis 2018 pour la mise en place d'une maison de santé. Nous les avons rencontrés, nous avons rencontré le directeur de l'hôpital, nous avons rencontré les syndicats de l'hôpital et les pharmaciens du territoire. On ne va pas arriver et puis casser leur projet. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler avec eux et construire un projet commun dans lequel nous pourrons inclure des médecins salariés et des médecins libéraux. Et en effet, dans notre jeu, nous avons un atout qui est celui de la région, puisque nous avons déjà commencer à travailler avec la région pour préparer un dossier pour le recrutement de médecins salariés. C'est la première urgence, le recrutement de médecins salariés. Mais ce n'est pas la seule. Ce qu'on a identifié en rencontrant le directeur de l'hôpital, c'est qu'aujourd'hui, on a de nombreux internes qui viennent travailler dans l'hôpital de Moissac, mais qui ne sont pas logés à Moissac. Pourquoi ? Parce que l'hôpital de Moissac a seulement quatre chambres à leur offrir aujourd'hui, dans un immeuble qui est plutôt en mauvais état. Et donc nous travaillerons en nommant un élu délégué à l'attractivité médicale pour accompagner l'hôpital dans la rénovation de logements pour les médecins internes, mais également pour les accompagner avec leurs conjoints, pour qu'ils puissent rentrer dans la ville, pour qu'ils puissent apprendre la ville, pour qu'on puisse les accompagner pour trouver un travail. Voilà, donc une véritable politique offensive, vraiment en matière de recherche de médecins, d'accompagnement de médecins, d'accompagnement d'internes, toujours avec une défense ferme de l'hôpital, et j'ai pas terminé, juste... Il faut savoir que la santé, ce n'est pas seulement... c'est aussi la prévention. Et là aussi, nous portons une politique forte en matière de prévention sur les addictions, qui a été complètement oubliée jusqu'à présent, sur la nutrition également, une politique forte en matière de sport.
On vous a entendu, Séverine Laurent. Vous, Romain Lopez, quelles garanties avez-vous aujourd'hui sur la concrétisation de la maison de santé ?
Là aussi, peut-être certains sont mal informés. Le lieu a été choisi, ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans, puisque la communauté des communes a racheté à l'hôpital intercommunal.
Il y a un veto qui a été posé, monsieur Lopez, et vous le savez très bien, qui a été posé par la MSP actuelle.
Alors, il y a juste des
délibérations. Tous les praticiens moissaguais s'opposent justement à ce qu'elle se fasse au niveau de l'ancienne maison de retraite.
Bon, et
je pense que pour les auditeurs, c'est quand même important de poser les termes du débat et qu'on évite de raconter des salades moissaguais.
Les auditeurs peuvent vérifier, il y a un conseil communautaire, il y a un conseil de surveillance avec des délibérations, et effectivement, la communauté des communes, via le PF Occitanie, il y a 1 an et demi, a racheté à 500 000 euros les bâtiments de l'ex-EHPAD. Je n'invente rien, ils ont dégagé 500 000 euros. Voilà, donc le lieu a été choisi. Les médecins que vous évoquez avaient une crainte, c'est qu'ils ne voulaient pas de logement au-dessus d'eux. Nous les avons entendus, et ce n'était pas le propos. Un appel à projet a été lancé qui a été fermé au mois de novembre. Un candidat a été retenu. Ce candidat souhaite faire un pôle santé avec une résidence autonomie pour équilibrer le budget. Maintenant, le département doit réactualiser son schéma de gérontologie courant 2026. On espère qu'il le fera rapidement pour valider ce projet et qu'il puisse être lancé en suivant. Si jamais il n'est pas validé, ce projet, par le conseil départemental, la communauté des communes a provisionné, et vous pourrez tous le vérifier, il y a d'ailleurs des élus communautaires ici présents, dans son plan pluriannuel d'investissement, 3 500 000 euros, pour que la communauté des communes, si jamais ce porteur de projet ne pouvait pas aller plus loin à sa résidence autonomie, puisse prendre le relais et faire sa propre MSP. Après, effectivement, il y a la question de l'hôpital. C'est l'élément central de notre territoire, on l'oublie trop. Moi, ce que je propose, c'est bien de dire on va aider l'hôpital à se moderniser, mais comment ? Il faut de l'argent. L'hôpital, il a plus de 4 millions d'euros de déficit chaque année, voilà, comme la plupart des hôpitaux de France. Alors, la ville de Moissac, la ville de Cassel-Sarrazin, la communauté communautaire des Confluents se sont mobilisés symboliquement. Je souhaite aller plus loin. Et effectivement, si je suis élu et que la ville de Cassel-Sarrazin entend aussi ses volontés, nous arrêterons le projet de siège communautaire à 3 millions d'euros qui est au fin fond d'une zone. Et sur ces 3 millions d'euros, nous récupérerons, puisque ça, grosso modo, la Comcom recevra 1 million d'euros de subvention.
Qu'on
réinjectera directement dans l'hôpital. C'est possible via certaines directives.
C'est possible si si vous cassez une décision qui a été votée démocratiquement par 21 communes.
Non, non.
Donc c'est un véritable déni de démocratie. C'est pas ça la démocratie, monsieur.
Voté démocratiquement.
Si,
les élus s'exprimeront. Nous donnerons aussi la parole à la population. Et ces 1 million d'euros iront directement dans l'hôpital, non seulement pour sa modernisation, mais aussi pour l'aider à accueillir, à avoir une IRM.
Merci.
L'IRM est essentielle pour l'avenir de cet hôpital.
C'est un déni de démocratie, c'est ne pas respecter les 21 autres communes. Et de surcroît, ce n'est pas à nous, communes, on paye suffisamment d'impôts comme ça pour aller donner 1 million d'euros à l'hôpital. L'hôpital, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est faire en sorte que les patients moissagués, les patients du territoire, soient dirigés vers l'hôpital.
L'hôpital
c'est la seule raison.
Merci.
C'est la seule raison des pertes financières aujourd'hui de l'hôpital. Il faut diriger les patients vers l'hôpital de Moissac.
Pardon, c'est venu là.
Et pour ça, il faut qu'il y ait des équipements modernes, cet hôpital.
Estelle et Mamie, c'est à vous.
C'est fabuleux. Moi, j'ai l'impression d'être venue assister à la primaire de la droite. Parce que là, en fait, dans les débats, je trouve que c'est un discours qui est très à droite. Bon, bref.
Vous n'avez pas l'apanage des politiques sociales, madame et Mamie.
Je peux m'exprimer sur la santé, merci.
Vous êtes en train de m'attaquer.
Alors,
c'est pas...
J'attaque personne.
Bah, si, bien sûr que si.
Sur la santé, on est bien d'accord que c'est une priorité absolue sur notre territoire, mais partout ailleurs en France. Voilà, donc malheureusement, on est dans la même situation que beaucoup. Donc, comme les autres, en fait, on ne mettra jamais de bâton dans les roues dans les projets qui sont en cours au niveau avec les médecins libéraux. Nous souhaitons bien évidemment mettre en place un centre de santé, donc avec des médecins salariés, donc nous appuierons soit sur la région, soit sur l'association locale qui est une association locale qui est sur ce territoire.
La PASS.
Tout à fait, et qui agit fortement pour améliorer le quotidien au niveau de la santé des habitants de ce territoire. Mais nous avons un projet un petit peu qui sort du lot. En fait, nous mettrons en place, par le biais d'une association qui sera portée par des médecins, une maison de garde de nuit. En fait, c'est un projet qui fonctionne déjà sur d'autres territoires, et donc nous nous sommes vraiment penchés sur la question. C'est entièrement financé par les ARS, donc je trouve le projet très intéressant et ça permet en fait de pallier aux urgences de nuit, donc le soir et le week-end. Voilà, donc je pense que ça c'est vraiment un vrai projet concret et qui peut être très vite mis en place.
Avec quel médecin, madame et mamie ?
Comment ça, avec quel médecin ?
Aujourd'hui, on n'a plus de médecins aujourd'hui.
Oui, mais en fait, ce projet-là...
Il en reste 6, il y en a 2 qui vont partir à la retraite.
Je l'entends, mais ce n'est pas avec des médecins locaux, en fait. Ce projet, en fait, n'importe quel médecin de n'importe quel territoire peut venir. Pourquoi ? Je vous explique. C'est très simple. En fait, ce projet, il intéresse beaucoup de médecins, parce qu'en fait, quand ils travaillent...
Il faut être attractif. Aujourd'hui, on n'est pas une ville attractive.
Laissez-moi finir, vous me posez une question. Écoutez-moi.
Je vous laisse finir.
Quand vous proposez ce projet aux médecins, en fait, ça les intéresse. Pourquoi ? Tout simplement parce que, en fait, ils travaillent 2 nuits ou 2 soirées par semaine. En fait, ça équivaut à 1 semaine de travail pour eux. Donc voilà, c'est vraiment tout bénef pour les médecins. Donc il y a vraiment des médecins qui viennent qui se sont un peu spécialisés, si vous voulez, dans ce genre de
Donc c'est
de
la collectivité, en fait, c'est des médecins.
C'est
salariés,
des médecins non, libéraux.
Libéraux.
Jules Dufaux, vous voulez réagir ? Je
veux réagir parce qu'on s'éloigne complètement de la préoccupation directe là, des Moissagués, qui est d'avoir des médecins. Qui est d'avoir...
Et qui est un combat d'État.
C'est d'avoir des médecins.
Quand même le rappeler.
C'est d'avoir des médecins.
Un combat d'État, absolument.
La mise en garde qu'il faut avoir absolument, c'est que, évidemment, qu'il nous faut cette maison de santé, parce qu'il faut être conscient que les jeunes médecins, aujourd'hui, quand ils vont dans des territoires ruraux comme les nôtres, c'est parce qu'ils ont des solutions clés en main. Ils ont un secrétariat, ils ont un matériel médical, ils ont parfois même une unité de petite urgence. Ils ont un bâtiment, ils ont des solutions clés en main. Et la deuxième mise en garde, qui est tout aussi importante, c'est que si nous ne lançons pas le projet de construction de la maison de santé dans les moins de 2 ans, jusqu'à 2028, si nous avons nos médecins, parce que j'entends le promoteur immobilier du nom d'Icar, nommons-le, qui veut faire construire la maison de santé. Si les praticiens locaux s'y opposent et n'intègrent donc pas la maison de santé, il n'y a pas de financement ARS en dessous d'un seul médecin généraliste dans la maison de santé. Donc il faut être conscient aussi de cela. Donc nous proposons quelque chose de très clair. c'est dès les deux premiers mois du mandat, nous nous engageons à fixer définitivement l'emplacement de cette maison de santé.
Il est fixé.
Il n'est pas fixé avec les praticiens. Je veux dire, vous pouvez ouvrir une maison de santé s'il n'y a pas les praticiens à l'intérieur, ça ne sert à rien, monsieur Lupet. C'est pas un promoteur immobilier qui va amener des médecins. Icar n'a pas de filière de médecins, monsieur Lopez. Icar est un promoteur immobilier qui fait du bâti, qui fait des travaux.
Et on ne va pas le nommer ici.
Donc il faut déterminer l'emplacement. Il faut déterminer un emplacement dans les deux mois qui conviennent à tous les praticiens.
Choisi par la communauté des communes.
Très rapidement.
Le promoteur en question, lui aussi, effectivement, a un réseau colossal national et il est entré en contact, comme nous-mêmes, avec les médecins locaux. Pourquoi être obligé de mentir quand on est certain de ses convictions?
Vous m'accusez de mensonge, monsieur Lopez.
Ce projet, il est fait.
Monsieur Lopez, vous m'avez coupé, vous m'accusez de mensonge.
Monsieur Dufault,
est-ce que vous pouvez affirmer de suite que les médecins moissagués sont totalement favorables à ce projet de maison de santé dans l'ancienne maison de retraite avec des logements au-dessus?
Je ne vais pas débattre sans arrêt.
Vous voyez, vous ne pouvez même pas l'affirmer.
Monsieur Dufault, moi je vous affirme, contrairement à vous qui m'avez dit droit dans les yeux il y a deux ans, je n'utiliserai pas le Téléthon pour faire la politique.
Voilà, de suite, vous repartez sur.
Moi je vous dis droit dans les yeux que les médecins.
On a un spectacle devant nous.
Moi je vous le dis très clairement. Les médecins, on les a réunis, ils nous ont expliqué une crainte, c'était d'avoir des logements au-dessus. Oui. On a entendu cette crainte, donc le projet qui a été acté, c'est que dans un bâtiment, il y aura uniquement la maison de santé, et dans l'autre, il sera détruit pour une résidence autonomie.
Ne relancez pas.
Si c'est nous qui sommes élus, à ce moment-là, on reprendra langue avec tous les professionnels de la MSP.
Je tiens à ce que les Moissagais méritent la vérité
sans
méritent la vérité du débat.
S'il vous plaît, je vais vous demander de ne pas parler en même temps, parce que c'est inaudible.
Je veux dire, se battre sur... Enfin, là, on est tous en train de se chipoter pour une question de santé qui est une compétence de l'État. On essaie de créer des polémiques sur des choses qui ne sont pas
c'est la
préoccupation principale des Moissagais, des Tarn-et-Garonne et des Français. Voilà. Et c'est pour ça que nous, on veut essayer aussi d'agir rapidement en débloquant une bourse d'études pour les internes Moissagais afin de leur permettre de s'installer dans la commune.
Merci. Ce qui est une très bonne chose. Voilà, vous êtes d'accord.
Vous pouvez prendre l'idée, j'ai pas la propriété intellectuelle sur les idées.
C'est l'ami, mais très très rapidement
oui,
parce que
non,
je veux vraiment
qu'on est d'accord que la très santé rapidement. Est une priorité pour tous les Moissagais.
Vous êtes tous d'accord.
Mais voilà, mais en fait, vraiment notre projet sur les soins la nuit, le soir et le week-end, c'est quand même pour pallier à la fermeture des urgences.
On vous a entendu. Merci,
Estelle Mamie. Nous recruterons des médecins dès que nous arrivons aux affaires.
Ok.
Bravo.
Derrière ces propositions, elles se posent une question déterminante, leur financement, car toutes ces politiques municipales reposent aussi sur les capacités budgétaires de la commune. Alors je voudrais, s'il vous plaît, vous demander de vraiment synthétiser vos propos sur cette thématique-là, parce que sinon on n'arrivera pas à caler toutes les thématiques sur ce débat. Romain Lopez, c'est à vous que je pose la question. Quel est aujourd'hui l'état précis, très synthétiquement, des finances de la commune, dette, capacité d'investissement et évolution de la fiscalité locale?
Alors, très clairement, baisse de la dette. On a baissé de 30% la dette par habitant. Augmentation de l'épargne, qui a augmenté de plus de 2 millions d'euros sur l'exercice. Augmentation des investissements. On est à peu près à 2 millions d'euros d'investissements supplémentaires, qui nous placent devant des communes alentours comme Valence-d'Agen et Castelsarrasin. Les finances publiques, aujourd'hui, sont bonnes. Ça nous a permis d'ailleurs également, au-delà d'augmenter l'investissement, de baisser le taux municipal de la taxe foncière. Donc les capacités à investir de la commune sur le prochain mandat seront encore plus importantes que sur ce mandat-ci. Nous avons travaillé justement une politique d'équilibre entre l'emprunt et l'autofinancement. Tout cela sans dégrader les services publics, puisque bien au contraire, nous avons renforcé les services publics, notamment à destination de la jeunesse en créant 32 places en crèche, en créant un centre de loisirs ado, en créant un point
après
jeune, un accueil
supprimé.
Jeune.
Attendez.
On n'a strictement rien supprimé. On ne va pas refaire l'historique. La Cour des comptes est là pour l'indiquer. On a aussi créé une maison municipale France Service dans le quartier prioritaire du Sarlat. Donc nous avons créé et nous avons financé une maison municipale France-Service dans laquelle l'État s'est greffé parce qu'il a trouvé le projet intéressant et je l'en remercie, ce qui prouve que la ville de Moissac peut travailler en bon partenaire avec les services de l'État.
Estelle Mamie, comment vous financez, vous, votre bouclier municipal sans augmenter la fiscalité?
Alors déjà, moi, je voudrais revenir sur les propos de M. Lopez, parce que c'est important. Je suis désolée, hein, monsieur. En fait, il y a quand même quelque chose qui est gênant, parce qu'il dit qu'il dégage 2 millions d'épargne sur la ville, mais il le dégage comment, en fait? C'est essentiellement sur la fiscalité des ménages, et sur le dos de la fiscalité des ménages, et sur les économies réalisées sur les services publics. Donc ça, c'est quand même un point qui est vraiment gênant. Donc, effectivement, c'est pas le fruit d'une performance exceptionnelle, et c'est un choix politique qu'effectivement nous ne ferons pas. Oui, la ville a été désendettée, donc ça c'est clair. Là maintenant, je crois que vraiment...
Vous le portez au crédit de Romain Lopez ?
Bah parce qu'il n'a pas fait de projet, il n'a rien fait. Et ça fait 3 ans qu'il ne fait pas d'emprunt quand même. Donc il y a 0 € d'emprunt. Donc alors, c'est un petit peu gênant pour la ville.
Nous sommes passés à plus de 5 millions d'euros et demi d'investissement.
Et nous sommes passés à 5 millions d'euros.
S'il vous plaît, laissez terminer Estelle Mamie.
Merci. En fait, le fonctionnement de la municipalité actuelle, elle me gêne un petit peu. Je vais prendre un exemple très concret en fait, pour que ça parle à tout le monde. En fait, c'est comme si vous êtes, monsieur Lopez, c'est comme si vous étiez locataire dans un appartement meublé et en fait que vous vendez les meubles du propriétaire. En fait, vous fonctionnez comme ça. C'est-à-dire que vous financez votre investissement avec l'épargne. Et ça, c'est gênant parce qu'en fait, vous ne laissez rien de côté, en fait. Donc, au niveau de la trésorerie, c'est un petit peu embêtant. Non, moi, je suis très inquiète.
Je suis très inquiète.
Pourtant, j'ai les chiffres, hein, mais je suis très inquiète sur la trésorerie de la municipalité quand on arrivera en place parce que je ne sais pas dans quel état mal
le vous n'avez pas répondu très rapidement. Alors, est-ce que vous pouvez savoir
bien évidemment que je ferai des emprunts en restant tout à fait logique en fait sur des emprunts pour 5 ans à peu près. Ça c'est ce qu'une ville de Moissac à l'heure actuelle peut faire sans problème.
Séverine Laurent, votre programme des investissements assez importants. Comment vous financez tout ça?
Tout à fait. D'abord, nous
très synthétiquement
que, très synthétiquement, avec le même temps de parole que chacun de
nos
concurrents. Nous pensons qu'en effet, ce qui détermine les bons ratios d'une ville, c'est pas les ratios sur un budget, c'est pas d'être en capacité. Une ville, c'est pas un livret A. Ce qui détermine il faut qu'on soit bien dans cette ville, en fait. Il faut qu'on ait une bonne... Il faut qu'on s'y sente bien. C'est aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà, aujourd'hui, à Moissac, on le voit bien, il n'y a pas eu de projet structurant, il n'y a pas eu de projet d'avenir.
Qu'est-ce qu'on appelle un projet structurant?
Je vais vous répondre juste après. D'abord, je vais répondre à M. Youps. Concernant la fiscalité, donc nous, on a eu un débat très sérieux sur le sujet de la fiscalité. On est parfaitement conscient et vigilant sur le fait que la taxe foncière ainsi que la CFE sont extrêmement élevées. Cependant, vu l'ampleur des travaux à mener pour relever cette ville, on ne peut pas s'engager aujourd'hui en responsabilité à une baisse réelle. Parce que si on décide un jour de baisser la taxe foncière, ce sera pour la baisser réellement et pas pour l'équivalent d'une baguette de pain par an. Ceci étant dit, chaque virgule de notre budget a été budgétisé. Chaque priorité a été identifiée. Donc, priorité numéro 1, la santé. Priorité numéro 2, ce sera sur refonte de la politique de sécurité. Priorité numéro 3, au niveau de l'économie. Donc, pour chaque mesure, on a un budget qui a été très clair et très précis. Et donc, nous avancerons avec ces éléments.
Sur la fiscalité, est-ce que vous allez l'augmenter?
Au mieux, on s'engage à ne pas l'augmenter. On s'engage à ne pas l'augmenter et on fera en sorte de la baisser si toutefois les finances nous le permettent.
Jules Dufaux, vous avez une stratégie de réindustrialisation. Comment la commune peut-elle financer sans fragiliser son budget ?
D'abord, je ne suis pas très fier que Moissac occupe le podium des communes du Tarn-et-Garonne qui affichent l'imposition, la plus haute pression fiscale, notamment sur le foncier. Si on est toujours dans le podium global
des
villes.
Vous pouvez aller vérifier.
Donc, c'est-à-dire que nous avons une fiscalité qui ne répond pas d'ailleurs aux services rendus. C'est-à-dire qu'encore si nous avions une ville avec beaucoup de services, on parlait de social, on parle pour les jeunes, les adolescents, les familles, les aînés, des services publics puissants et fonctionnels, ça pourrait être entendu. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous avons plusieurs impératifs. Le premier, c'est évidemment ne pas augmenter aucune fiscalité locale, que ce soit la taxe foncière sur le bâti ou les impositions sur entreprises, CFE notamment avec l'intercommunalité.
Donc vous endetterez à combien ?
Absolument pas. Donc l'objectif, ce premier impératif, c'est aucune augmentation d'impôts. Deuxième, c'est évidemment rester en dessous du seuil de désendettement, de la capacité des endettements de 8 ans, qu'on dit à peu près gestion saine, en dessous de 8 ans. Donc il peut y avoir quelques emprunts, mais on ne dépassera jamais un seuil de 8 ans de capacité de désendettement. Et nous avons budgété donc un plan d'investissement sur 6 ans de 35 millions d'euros. Que nous fléchons de deux ordres. D'abord, pour le quotidien des Moissagais. Je pense à la voirie rurale, qui est dans un état très dégradé, qui en devient parfois même dangereux. Je pense toujours pour le quotidien aux jeunes. Nous allons créer un bike park et un skate park urbain. Nous allons développer également des seigneuriales pour nos aînés qui sont encore dans l'autonomie et qui veulent pouvoir bénéficier d'un accompagnement encadré. Et ensuite, un investissement aussi dans l'avenir. On parlait tout à l'heure donc, de l'emploi et de la réindustrialisation, l'investissement que pourra contribuer, dans lequel pourra contribuer la commune, notamment sur les ouvrages de protection contre les inondations, pas que les ruisseaux qui est de la compétence GEMAPI, donc de l'intercommunalité, mais sur le reste, on pourra évidemment y investir. C'est des investissements d'avenir. Et je terminerai par un dernier investissement qui nous semble très important, c'est évidemment le transport. Parce que nous avons des aînés aujourd'hui qui doivent compter soit sur leurs enfants pour aller se déplacer, faire les courses. Donc nous développerons, comme sur le modèle de Saint-Gaudens d'ailleurs, une navette intercommunale financée notamment par des partenaires privés.
Merci Monsieur Dufaux, puisque c'est ce que la communauté des communes a validé il y a quelques semaines et qui sera mis en application. C'est 3 heures à Moissac, 3 heures à Cassé-Sarzin, sachant que sur le transport...
C'est pas une flotte, Monsieur Lopez.
Sur le transport...
Ce n'est pas une flotte,
attendez. Sur le transport, il faut bien être précis, l'autorité organisatrice des mobilités, le conseil régional qui peut déléguer aux communautés de communes du transport à la demande ou du transport solidaire. La communauté de communes a choisi du transport à la demande avec un cahier des charges bien précis que l'on peut critiquer ou pas, peu importe, mais la région peut financer jusqu'à 70% du déficit de fonctionnement de ses navettes. Donc la communauté de communes a travaillé un projet et la région a validé 3 arrêts à Moissac, 3 arrêts à Cassé-Sarzin.
Justement, moi je ne parle pas de transport à la demande, mais d'une flotte de navettes permanentes sur le modèle de Saint-Gaudens. Merci. Et notamment financée par les opérateurs privés. C'est financé par les opérateurs privés.
Je précise que la ville de Moissac a déjà depuis 2017-2018 un transport à la demande porté par le CCS pour les 60 ans et plus que nous avons élargi au public à mobilité réduite de moins de 60 ans.
Qui fonctionne très bien.
Et qui fonctionne très bien. Je remercie les agents municipaux
merci
et du CCS.
Il est 12h41. Il nous reste deux thématiques à aborder. On va se diriger vers l'urbanisme et le logement qui sont quelque part liés. Vous êtes donc tous les quatre des Moissagaises et des Moissagais. Vous avez une ville magnifique, somptueuse, chargée d'histoire.
Merci Kader, vous avez bon goût.
Et pourtant,
beaucoup d'atouts, effectivement.
Et pourtant, vous faites tous, je crois, unanimement, le constat qu'il y a trop de logements en très mauvais état, vétustes, insalubres. Estelle et Mamie, vous souhaitez-vous agir sur la taxe foncière pour encourager la rénovation des logements? Est-ce que c'est possible?
Alors, effectivement, ça tombe bien, on fait le lien entre la thématique précédente et celle-ci. Oui, à moi, ça qu'il faut repenser l'aménagement urbain et le logement, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de logements insalubres. Alors, la problématique, c'est que les logements appartiennent à des propriétaires et en fait, effectivement, ils ont une taxe foncière qui est très haute, puisqu'elle date de 1970 à peu près. Et donc, là, il faut vraiment retravailler avec les services de l'État. Ça fait un petit moment maintenant que les services de l'État doivent revoir en fait cette taxe, mais elle met du temps à arriver. Donc là, ça va devenir vraiment problématique. Il va falloir un petit peu taper du poing sur la table. L'habitat, effectivement,
il ne vaut mieux pas que l'État revoie les bases, parce que sinon, elles vont littéralement exploser, puisque ça sont basés sur les années 1965.
Non, Monsieur Lopez, s'il vous plaît, vous n'êtes pas en conseil municipal. Merci. Moissac est considéré comme une ville bourgeoise depuis 1970. Ce n'est plus le cas. Donc effectivement, l'État doit revoir cette taxe foncière pour permettre aux propriétaires de faire des travaux et nous allons inciter ce genre de choses. Nous travaillerons également sur des OPH, bien évidemment, et nous travaillerons avec les services du département, en fait, puisqu'il y a aussi des possibilités de revoir ensemble ces logements. Voilà, c'est tout un ensemble, en fait, qui font que des choses sont possibles. Et ça n'a pas du tout été vu. La priorité aussi pour la ville de Moissac et la municipalité, c'est de revoir entièrement le parc immobilier, parce qu'il y a des problématiques de passoires thermiques encore dans les écoles ou au centre culturel, par exemple, et ça n'a pas été du tout vu. Et donc, voilà, tout ça, nous l'avons noté dans notre plan guide qui est sur des aménagements urbains et également sur le logement. On travaille sur le logement en centre-ville principalement, mais à horizon 2050, bien évidemment, en 6 ans, c'est difficile de tout faire.
Séverine Aurand, vos propositions, vous, sur le logement, je crois que vous partagez le constat.
Logement, alors on partage le constat là aussi, mais on sait aussi que, par exemple, en centre-ville, on a près de 57% des habitants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc avec de nombreux logements insalubres, avec des personnes qui vivent dans des garages.
Ce sont des propriétaires ou des locataires ?
Ce sont des locataires, pour beaucoup. Donc, bien évidemment, nous renforcerons le permis de louer, mais nous travaillerons également sur le PLU pour interdire l'usage de logements, des locaux commerciaux. Il y a un autre sujet aussi sur lequel nous devons absolument travailler, c'est sur la Airbnbisation du centre-ville, où aujourd'hui il y a de plus en plus de boîtes à clés avec des appartements qui ont été refaits par des sociétés à Genèse ou Toulousaine. On en a dénombré près d'une cinquantaine rien qu'en centre-ville. Donc là aussi, il faudra encadrer.
C'est-à-dire que pour nos auditeurs qui comprennent bien, c'est la spéculation, oui, pour que permettre aux touristes de venir et aux propriétaires de louer leur appartement à des prix exorbitants.
Tout à fait, absolument. Et puis, bien sûr, sur le logement, sur l'urbanisme, en fait, nous pensons qu'il faut absolument refaire complètement ce centre-ville, qui est aujourd'hui un grand parking à ciel ouvert. Il faut réellement se poser la question de la place de la voiture dans la ville et travailler avec l'ensemble des Moissagais pour pouvoir penser la ville autrement. Nous n'avons quasiment pas d'arbres, nous n'avons pas de mobilier urbain, avec ce taux de précarité, près de 20% des boutiques vides aujourd'hui au niveau des commerces, des loyers commerciaux très élevé, on est à 18, entre 18 et 20%, monsieur Lopez. Donc voilà, et c'est pas avec une petite mesure par-ci, une petite mesure par-là qu'on va pouvoir vraiment relever cette ville. Il va falloir beaucoup de travail et beaucoup de mesures, dont je vous invite à lire notre catalogue, mais qui n'est pas exhaustif, pour pouvoir relever cette ville.
Robin Lopez, est-ce que le permis de louer suffit ?
Le permis de louer est un complément à une politique plus globale qui doit être menée conjointement entre la mairie, les services de l'État, la communauté des communes. Quand on parle de paupérisation du centre-ville, effectivement, ce n'est pas lié à la commune. C'est une politique globale, générale, conjoncturelle liée à l'État de notre pays. Mais là, on s'égarerait un peu. Si on revient sur le logement, en 5 ans, nous avons rénové avec l'OPA 61 logements, parmi lesquels il y avait la précarité énergétique, de la mise en autonomie, de la lutte contre l'habitat indigne. Il y a 34 à 35 logements qui ont été ciblés dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne. Et puis nous avons, depuis un an, mis en place le permis de louer, qui est aujourd'hui géré par un agent. Effectivement, nous allons le renforcer avec un deuxième agent, puisque ce permis de louer couvre le centre-ville et le quartier du Sarlat, notamment.
Simplement, monsieur Lopez, je me permets de vous couper, mais sur la dernière municipalité de gauche, en fait, en 5 ans, il y avait 300 logements qui avaient été visités et 130 logements qui ont été déclarés indécents et rénovés. Voilà, donc voilà la différence entre une municipalité de gauche et d'extrême droite. Quand on ne met pas en place sur un service logement correct, sur un CCAS où on n'a pas d'assistante sociale depuis 6 ans, en fait, où on doit travailler...
Merci pour les agents assistantes sociales qui ont été au CCAS, elles m'ont apprécié. C'est des assistants tombe du coup.
Ben là, dites-moi, depuis combien de temps on n'a pas d'assistante sociale sur
le... Il y en a une qui est partie depuis 2 mois, elle a été remplacée et une autre
non,
a pris son poste.
Non, il n'y en avait pas, vous mentez.
D'accord, elle s'appelait Aurélie Lassalle. D'ailleurs, je dis son nom, voilà. Elle appréciera si elle écoute.
Oui, vous poursuivez. Sur le permis de louer, rapidement, est-ce que vous allez, si vous êtes élu, est-ce que vous allez enclencher une politique plus ambitieuse en termes de rénovation, de logement ?
La commune, elle agit en fonction des outils qu'elle a. D'accord. Aujourd'hui, ce qu'on permet à une commune, c'est de mettre en place un permis de louer. Ce permis de louer, ça fait plusieurs mois qu'il est déployé sur la commune. Nous allons le renforcer avec un deuxième agent supplémentaire. Donc, on continuera nos efforts en matière de lutte contre l'habitat indigne en collaboration avec la DIL, les services de l'État, parce que je n'hésite pas à mettre en demeure les propriétaires quand il faut le faire, et aussi à mettre des arrêtés de péril aux frais des propriétaires pour reloger les locataires. Après, effectivement, aussi, si on veut améliorer l'habitat, l'histoire des impôts, là, je vous avoue que je n'y comprends absolument pas, puisque si on doit réviser les bases locatives, ce n'est pas au niveau communal, c'est au niveau de l'État. C'est l'État qui enclenche cette base et cette révision.
C'est ce que j'ai dit.
Et si, donc on ne peut pas le faire qu'à l'échelle de la ville de Moissac. Et quand l'État le fera, et pourquoi il ne le fait pas d'ailleurs, c'est parce que ça va exploser les impositions. Mais bon courage pour les classes moyennes qui vont se retrouver complètement pressurées.
Jules Diffaut, pour vous, le continuez pas et le permis de louer, ça n'est pas suffisant.
Je suis scandalisé au même titre que tous les Moissaguais qui ont encore la chance de se rendre en centre-ville. Parce que oui, aujourd'hui, tous les Moissaguais ne vont plus en centre-ville. Ville de Moissac.
Quand on vous écoute, on a l'impression que c'est Chicago. Ouais.
De voir, oui, monsieur Lopez, mais allez vous parler avec les commerçants de Moissac, allez parler avec les Moissaguais.
Rassurez-vous, j'y passe ma vie dans le centre.
Oui, et donc tout le monde vous dit que tout va bien ?
Non. Bon. Mais moi, je ne suis pas. Je suis pas
S'il vous plaît, monsieur Lopez, je ne vous ai pas interrompu, on va échanger confortablement. Donc nous avons une. Donc, je suis scandalisé, comme les Moissaguais, en voyant notamment dans des rues des locaux commerciaux qui accueillent des habitations. On voit des renforts en bois pour masquer une vitrine, et derrière ces renforts se trouvent des lits superposés où on entasse des familles dans ces logements-là. Quand on entend ailleurs, dans d'autres villes, que Moissac est devenu le quart-monde, alors bien sûr que moi ça me blesse, ça blesse tous les Moissaguais, ça blesse tout le monde, mais c'est aussi cette réalité que nous sommes en train de vivre. Donc sur le logement, ce que nous proposons est plutôt clair. Le permis de louer est une très bonne chose, c'est une arme redoutable contre le logement indigne, et nous proposons de passer à la phase 3. C'est-à-dire que nous allons empêcher, évidemment, que ce soit toujours les honnêtes bailleurs qui soient pénalisés par ce permis de louer. Il faut que la phase 3, c'est le contrôle, que la déclaration préalable, la déclaration de mise en location, a été bien faite. Oui. C'est-à-dire un agent qui est devant des annonces en ligne, qui peut contrôler que toute annonce en ligne...
C'est ce que l'on fait depuis plusieurs mois. Ça s'appelle le permis de louer, c'est une autorisation préalable.
Oui, mais non, mais vous parlez de la phase 2, monsieur Lopez. Si, je ne vous ai pas interrompu.
Oui, non, mais
vous parlez de la phase 2, je vous parle de la phase 3.
Oui, mais nous sommes dans ce que vous appelez, vous, politiquement, la phase 3, qui est l'autorisation
préalable. Votre agent est débordé, je le sais. Il y a des délais qui sont très longs pour donner. Là, on parle au Moissaguais. Il y a beaucoup de bailleurs moissaguais qui entendent de cela et qui vont vous dire et vous confirmer.
C'est un mois de délai pour donner une réponse. Si on accorde, si on ne donne pas de réponse.
On peut mettre en location sans attendre l'autorisation. Alors, on ne va pas jouer au professeur et à l'élève, monsieur Lopez. Par contre, ce que je veux dire, c'est que la phase 3, c'est ce contrôle, qu'on puisse contrôler a posteriori par les mises en ligne, que, évidemment, c'est très simple. On a une annonce de mise en location où on a constaté visuellement une mise en location. Elle doit absolument faire l'objet d'une déclaration. Aujourd'hui, on n'en est pas à cela, parce qu'il nous manque un agent. Donc moi, je propose aussi de recruter un nouvel agent
sur l'urbanisme,
tout à fait. Mais moi, je l'ai inscrit. Nous avons pensé depuis le début que nous avons fait notre étude sur l'urbanisme et le logement à Moissac. Et après, le second sujet, quand on parle de logement, c'est quand même le logement des travailleurs saisonniers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire fi de cette situation. Nous avons, quand vous parlez aux commerçants, hier j'étais encore à la rencontre de nos commerçants dans les rues, ils sont tous conscients qu'une forme de communautarisme et de rassemblement communautaire, qui sont parfois très bruyants, fait, un, fuir les commerçants, deux, interloque un petit peu les touristes, donc une image aussi de Moissac qui devient de plus en plus négative. Donc il y a vraiment un sujet là-dessus, parce que si on fait l'autruche et on continue à dire que tout va bien, tolérance zéro, ça n'a pas fonctionné. Il y a toujours autant de rassemblements communautaires. Et puis là, je reconnais une impuissance normale. Là, ce n'est pas la police municipale qui peut lutter contre le communautarisme. Pour moi, l'arme la plus efficace, ça sera le logement. C'est pour ça que je veux qu'on soutienne, comme il se fait ailleurs, comme il se fait dans les vignobles bordelais, l'hébergement. On va soutenir les agriculteurs aussi pour déployer des hébergements.
Ils le font déjà. 30 secondes, monsieur, enfin, quand j'entends des candidats aux élections municipales qui sont les soutiens de ministres qui ont fait rentrer le plus d'immigration, qui aujourd'hui s'en plaignent, franchement, c'est prendre les moissagués pour des imbéciles. Après la question du logement des saisonniers, ce qui est dit ici, c'est totalement faux et impossible. Pour obliger des agriculteurs à loger
des
saisonniers...
Est-ce que j'ai parlé d'obliger, mais en fait, est-ce qu'on se rend bien compte qu'on transforme les mots quand même.
Il faut qu'il soit extra-européen. Là, effectivement, l'agriculteur doit loger des saisonniers qui sont extra-européens. Aujourd'hui, ce que nous avons, ce n'est pas une immigration saisonnière, c'est une migration rambulgare de peuplement que vos gouvernants font venir dans notre
Il faut des logements de qualité et il faut de la médiation avec ces personnes.
Très bien. Voilà. Je suis d'accord avec vous, Madame Laurent. Il faut rétablir des médiateurs de rue, tout à fait, parce que ça sera la prévention qui permettra de lutter efficacement contre les incivilités.
On peut aussi faire intervenir la police municipale dans ce cadre du logement.
Merci pour la transition, Madame Mamie, parce que c'est un sujet central aussi dans cette campagne, la sécurité et la tranquillité publique. Il nous reste très peu de temps, donc on va un petit peu la tronquer, cette thématique, même si elle est importante. Romain Lepas, vous revendiquez une politique de tolérance zéro et une extension du réseau de vidéoprotection. Quels résultats concrets tirez-vous de ce dispositif et quelle évolution vous prévoyez, si vous êtes réélu?
Alors, moi, je reprends les chiffres qui ne sont pas la police municipale de Moissac. Vous
demandez de la synthétique.
Chiffres de gendarmerie, moins 12% atteinte au bien, moins 17% tapage, moins 33%
de dégradation. De quand, monsieur Lopez,
2023-2024. De 2023-2024, chiffres du lien aussi. Ah ben oui, 2020, effectivement, il y avait le Covid, les gens étaient chez eux.
Mais poursuivez parce que c'est votre temps.
Après, effectivement, nous avons augmenté les effectifs de police municipale. Nous allons continuer d'augmenter ces effectifs de police municipale. Nous allons continuer d'augmenter les caméras de vidéoprotection. Nous allons créer une brigade canine. Nous allons renforcer les contraventions, le montant des contraventions liées au dépôt de déchets. Non, ce n'est pas Noël.
Non.
En politique, Monsieur Dufault, si vous considérez que la sécurité, c'est la question du Père Noël, moi, je ne fais pas rêver les gens. Moyens qui sont les nôtres, effectivement, moi, je ne veux pas de médiateurs de rue, parce que les médiateurs, c'est une vieille recette socialiste qui a été utilisée à Moissac pendant 30 ans. On a vu les résultats jusqu'en 2020. Moi, les impôts des Moissacais, ils ne vont pas aller pour recruter des médiateurs qui vont expliquer à certains qu'il ne faut pas foutre le bordel dans nos rues. Je vais recruter des policiers municipaux pour les verbaliser. C'est une autre philosophie que j'assume pleinement.
Pendant la politique socialiste, comme vous dites, il n'y avait pas toutes ces personnes dans les rues à Moissac.
Effectivement, elles sont venues dans les années suivantes, mais on a toujours eu beaucoup d'immigration à Moissac et on ne peut pas dire que la gauche a fermé les
bandes de notre pays.
Madame et Mamie, Monsieur Lopez, s'il vous plaît, c'est à Jules Dufault de s'exprimer. Vous proposez, vous, la création d'une brigade de gendarmerie. Alors, je n'ai pas très, très bien compris dans votre programme comment vous allez la mettre en place.
Non, on ne propose pas la création d'une brigade, elle existe déjà.
D'accord.
On veut solliciter auprès du préfet et de l'État en général la dotation de Moissac d'une brigade de gendarmerie autonome, parce que la brigade actuelle de Moissac couvre plusieurs villes qui se trouvent dans d'autres cantons. Ça va de Lisac à Malose, à Saint-Paul-d'Espice. Donc c'est une couverture géographique qui est très très large. On assiste à une chose qui, à mon sens, n'est pas bonne, c'est que nous avons une police municipale qui est de plus en plus en train de suppléer le travail que devrait faire une gendarmerie nationale. Mais elle le fait avec moins de moyens, puisqu'elle n'a pas les réseaux d'enquête, elle n'a pas les mêmes pouvoirs. Donc il y a une vraie sollicitation auprès de l'État à porter de dire qu'il nous faut une brigade de gendarmerie autonome à Moissac, comme Castelsarrasin, une police nationale qu'à elle.
C'est-à-dire une brigade in situ sur...
Exactement. Donc ça, c'est pour moi un engagement de 6 ans de tout faire. Je ne peux pas le promettre. Par contre, je m'engage à tout faire pour négocier avec l'État l'instauration d'une brigade autonome. Et ensuite, sur la sécurité du quotidien, nous avons évidemment un renforcement de la police municipale dans son équipement pour lutter contre les incivilités qui sont le fléau, stationnement en pleine route, également les dégradations. On doit avoir une police municipale qui est, nous sommes les premiers à le proposer, à VTT électrique, dans son action au cœur de ville. Ça lui permettra d'être proche, ça lui permettra d'être accessible et agile dans son intervention auprès des fauteurs de troubles.
Merci. Estelle, la même liste à vous.
Oui, alors effectivement, il y a un lien entre la gendarmerie et la police municipale. Quand vous augmentez le nombre de policiers municipaux, forcément, ça fait baisser le nombre de gendarmes sur le territoire. Donc effectivement, l'idée...
Pas du tout.
Ah si, ça a toujours été comme ça.
Ah, pas du
donc,
tout.
Si. Mais enfin, on n'a pas le même point de vue là-dessus. Donc oui, la commune, elle a un rôle essentiel à jouer dans la sûreté de proximité en intervenant sur les préventions et sur les des infractions et des troubles à l'ordre public, ça, bien évidemment. Par contre, l'achat de nouvelles caméras, vous comprenez que ça ne sera pas notre priorité, parce que d'autant plus que l'efficacité des 44 caméras que nous avons déjà n'a jamais été chiffrée. Donc ça reste
là
une problématique.
Caméras, croyez-moi qu'il n'y a pas de trafic.
Laissez-moi parler, monsieur.
Laissez terminer.
Si sous la caméra, on ne voit pas.
Monsieur Dufault,
donc, ils se mettent sous... Allez, non, mais il faut le dire.
Donc nous privilégierons plutôt la coordination de professionnels de la sûreté en rétablissant le Conseil local de prévention de la sécurité, de la délinquance et de la radicalisation, avec une vigilance particulière sur la lutte contre le narcotrafic.
Séverine Laurent, c'est à vous qui vous concluez en quelque sorte.
Nous, la façon dont on a réfléchi, c'est qu'on est allé regarder quelles étaient les villes de 15 000 habitants en France qui étaient au top de la sécurité en France. Hier, dans le 83, qui est une mairie dirigée par les Républicains, Villeurbanne, dans le 69, qui est une mairie qui est dirigée par le PS. Et la façon dont ils mettent en œuvre en fait leur politique de sécurité, elle est basée sur trois piliers. De la prévention, de la proximité et de la sanction. En effet, sans prévention, en fait, une politique basée uniquement sur la tolérance zéro, ça ne fonctionne pas. Et vous avez beau sortir vos chiffres, monsieur Lopez, mais depuis 2020, vous savez comme moi que les crimes et délits ont augmenté à Moissac fortement.
Alors,
donc, prévention,
précision,
je vais terminer. Prévention,
aucun lien avec les
prévention,
crimes.
Proximité, sanction. La prévention, ça veut dire qu'en effet, on fera en sorte que les policiers municipaux, qui aient des agents référents par quartier et des agents référents pour les commerçants, qu'ils soient plus proches des habitants, soit en trottinette, soit en bicyclette. De la prévention, ça veut dire qu'ils travailleront de concert avec les médiateurs de rue dont nous avons parlé tout à l'heure. La proximité, c'est bien évidemment ce contact rapproché. Donc, transformer fondamentalement cette politique de sécurité aujourd'hui pour vraiment avoir ce lien direct avec la police municipale et se sentir réellement protégé dans sa ville. Avec professionnalisme.
Je remercie
et notre politique
policiers
sera portée par un ancien gendarme qui a œuvré pendant 7 ans à Moissac et qui connaît parfaitement le terrain.
Merci, Séverine Laurent. Nous arrivons donc au terme de ce débat. Vous disposez chacun et chacune de 30 secondes maximum pour une adresse aux Moissagais et aux Moissagais.
C'est moi qui commence ?
Oui, c'est vous. C'est
d'accord. Même. Alors, dans quelques jours, vous aurez à choisir votre prochaine équipe municipale. Ce choix est important. Il engage l'avenir de Moissac. Vous connaissez mon engagement. Il n'est pas nouveau. Il est sincère et constant. Être maire, c'est protéger, c'est prendre soin des habitants, c'est soutenir et améliorer le pouvoir d'achat des familles et c'est permettre à chacune et chacun de se déplacer en sécurité. Donc nous voulons une ville plus solidaire et plus dynamique qui soutient les acteurs économiques du territoire, une ville fière de son identité et tournée vers l'avenir. Votez-moi Moissac fier et solidaire.
Merci. Romain Lopez, c'est à vous. 30 secondes.
Je dirais tout simplement aux Moissagais qui sont satisfaits de notre action, mais de continuer ensemble pour continuer tous les projets que nous avons initiés sur ce mandat et qui se prolongeront sur le mandat suivant. J'ai essayé d'être maire à l'écoute des uns et des autres, dans la proximité. Toutes les semaines, je recevais les Moissagais. J'ai essayé de régler les problèmes des uns et des autres. Bien sûr, tout n'est pas parfait et je ne prétends pas à la perfection. D'ailleurs, si la perfection existait, qu'est-ce que l'on s'ennuierait ? Il n'y aurait pas de débat aujourd'hui. Mais en tous les cas, voilà, je suis un enfant de cette ville, je suis né ici, à Moissac. J'aime profondément ma commune et je ferai en sorte de continuer à servir les Moissagais comme je l'ai fait sur le premier mandat, avec écoute, proximité et le plus efficient possible.
Merci Robin Lopez. Séverine Laurent.
Cela fait 2 ans maintenant que nous avons commencé à travailler avec l'Union citoyenne moissagaise en regroupant des gens qui viennent d'horizons différents, avec des compétences différentes, avec des façons de voir différentes. Et nous avons réussi un pari majeur qui est celui de créer de la cohésion. Aujourd'hui, à l'Union citoyenne moissagaise, on a réussi à réunir des gens différents qui réussissent à s'entendre, à s'écouter. Et nous avons bâti un projet que nous souhaitons ambitieux et réaliste. Nous espérons vous avoir convaincus tout au long de cette campagne. Et nous appelons bien sûr les Moissagais et les Moissagaises à voter pour nous, pour protéger, concerter et dynamiser Moissac dès le 15 mars 2026.
Merci Séverine Laurent. C'est Jules Dufaux qui conclut ce tour de table.
Je veux dire aux Moissagaises et aux Moissagais que d'abord nous avons une ville qui est magnifique, mais que nous sommes au seuil de devenir une ville dortoir à l'horizon des prochaines années, et c'est quelque chose que moi je refuse et que je pense que ce sont beaucoup de Moissagais à refuser. Je veux leur dire que la résignation n'est pas toujours justifiée, que tout peut être possible, que évidemment un maire ne peut pas te faire tout seul, mais il peut s'entourer. Et c'est quand il s'entoure qu'il peut transformer le quotidien des Moissagais, que ce soit en termes de santé, de sécurité, de centre-ville, de commerce, qui seront d'ailleurs mes priorités dans le mandat à venir. Donc je leur dis de faire confiance à la liste de notre avenir et... S'ils connaîtront ma personnalité, ils se rendront compte que j'ai tendance à vouloir le mieux et le meilleur, et surtout des résultats.
Merci. Jules Dufaux, donc Jules Dufaux, Estelle et Mamie, Séverine Laurent, Romain Lopez, merci beaucoup infiniment d'avoir accepté cet exercice.
Merci
à Rémi Torella pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous politique sur CFM Radio.